Merci Laetitia et bonjour à tous. Donc aujourd'hui effectivement en direct du mémorial de Caen, 5 mars 1954, il y a 50 ans, la mort de Staline.
Adieu cher père, que nous aimerons jusqu'à notre dernier souffle. Nous entendrons ta voix dans le grondement des turbines des centrales électriques, dans le bruit des vagues des mers créées par ta volonté et dans le pas cadencé de l'invincible infanterie soviétique. Mikhail Sholokhov, 8 mars 1953.
D'histoire. Dans la nuit du 28 février au 1er mars 1953, à quelques kilomètres de Moscou, dans sa datcha de Kountsevo, Staline reçoit à dîner quelques-uns des plus hauts responsables du parti communiste soviétique, Malenkov, Beria, Khrouchtchev et Bulganine. À 4 heures du matin, les quatre hommes rentrent chez eux, sans savoir qu'ils viennent de voir Staline pour la dernière fois. Le maître du plus grand pays du monde s'enferme dans ses appartements où aucun de ses gardes du corps n'a le droit de pénétrer sans y avoir été appelé. Pendant 19 heures, enfermé dans sa chambre, il ne donne pas signe de vie. À midi, le 1er mars, les gardes commencent à s'inquiéter. Staline n'a rien demandé pour le déjeuner. Les heures passent, 20 heures, 21 heures, 22 heures. Staline n'appelle toujours pas. Tout le monde ignore que l'homme le plus puissant de la Terre est en train d'agoniser derrière une porte que personne n'ose ouvrir. À 23 heures, un de ses gardes du corps se décide enfin à entrer, allume l'interrupteur de la salle à manger et découvre Staline étendu sur le plancher, terrassé par une hémorragie cérébrale. C'est le début d'une longue agonie dont l'issue est annoncée 4 jours plus tard dans toutes les langues du monde par la radio de Moscou.
Наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин.
Le 5 mars, à 9h50 du soir, après une grave maladie, est décédé le président du Conseil des ministres de l'URSS, secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Vissarionovitch Staline.
Stéphane Courtois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste du communisme. Alors, ce que l'on vient d'entendre, cette archive date d'il y a 50 ans, en 53 et non pas 54, comme je l'ai dit au tout début de l'émission, la mort de Staline, donc annoncée avec une voix de circonstance. Cela dit, c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui ça pourrait faire sourire, à l'époque c'était un personnage considérable. Dans la revue L'Histoire de février, vous écrivez même qu'il a été l'homme politique qui a le plus pesé sur le XXe siècle. Il y en a quand même eu beaucoup d'autres. Il y a eu Hitler, il y a eu Mao, il y a eu De Gaulle, il y a eu Churchill, Roosevelt. Pourquoi Staline?
Staline? Parce que d'abord, c'est celui qui a eu la plus grande longévité. Il faut rappeler qu'il était déjà au pouvoir en URSS en 1917 et qu'il est mort en 1953. Ça fait donc un bail de près de 35 ans et que d'autre part, le régime qu'il a largement contribué à consolider et à développer s'est maintenu pendant encore près de 40 ans. Donc, ça a couvert pratiquement tout le XXe siècle.
Donc, l'homme, selon vous, le plus important, sans doute, du XXe siècle, le plus criminel aussi, il y a aussi dans la revue L'Histoire un article, le plus grand criminel de l'histoire, point d'interrogation, là aussi, on peut dire, il y a eu Hitler, quand même.
Oui, bien sûr, Hitler a fait beaucoup de dégâts, si je puis dire, mais il les a fait essentiellement à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'en 1939, en fait, la dimension criminelle du nazisme, qui est incontestable, est quand même relativement limitée, d'abord parce qu'elle est limitée à l'Allemagne et qu'elle représente à peu près 20 000 assassinats politiques. alors que dans la même période, 1933-1939, Staline est personnellement responsable de la mort de 7 à 8 millions de personnes.
Oui, mais il y a le génocide, Stéphane Courtois, ça c'est quand même autre chose.
Alors, ensuite, on a la période de guerre, qui est une autre période, où là encore, alors Hitler va faire énormément de victimes, le génocide des Juifs, mais pas seulement. Bon, mais Staline, dans la même période, va aussi être très performant, entre guillemets, si je puis dire.
Comment expliquer, Stéphane Courtois, la violence du régime que l'on a vraiment connue qu'après la mort de Staline? Est-ce que c'était parce qu'il était un personnage brutal, ou est-ce que c'est la logique d'un système qui l'a conduit aux purges dont nous allons parler avec vous?
D'abord, la première chose à rappeler, je crois, vous y avez fait allusion, c'est que toute cette terreur énorme qu'il y a eu, en particulier dans les années 30 en URSS, était en fait très largement secrète. Il faut rappeler que l'URSS était à l'époque un pays fermé, on ne pouvait pas y entrer, on ne pouvait pas y sortir, sauf en montrant, si je puis dire, patte blanche. Donc, c'est effectivement beaucoup plus tard qu'on découvre les effets de cette terreur, et c'est en fait seulement depuis 1991-92 qu'on en a les premiers documents, c'est-à-dire que les historiens peuvent s'appuyer sur des documents pour dire, ben voilà, tel jour, Staline a pris tel ordre, etc., pour faire assassiner tant de milliers de gens.
Mais les raisons, j'en reviens aux raisons.
Alors, les raisons.
La logique du système ou la personnalité même de Staline?
Il y a incontestablement la personnalité de Staline, puisqu'il a été personnellement responsable de tout ça. C'est-à-dire qu'il a pris personnellement les ordres. Hein, on les a maintenant, on a l'ordre numéro temps, du temps de juillet 1937, etc. Donc, il est personnellement responsable, et incontestablement, il avait un caractère extrêmement cruel, il n'avait évidemment aucune morale, enfin, je veux dire, aucun scrupule, la vie humaine pour lui ne comptait pas. Le vrai problème, c'est qu'en fait, Staline n'est que le continuateur du régime créé par Lénine. Et il n'a fait que développer en fait des réalités au niveau de la terreur en particulier qui ont été créées dès l'origine. Hein, puisque ce fameux KGB dont Staline avait fait un des piliers de son pouvoir était créé en décembre 1917 par Lénine sous le nom de la Tchéka, la Vetcheka.
Oui, le KGB, oui.
Donc, avec des noms divers, évidemment, cette police politique a évolué dans sa dénomination, mais il s'agit bien de la même institution et qui avait été créée par Lénine. Donc, c'est d'ailleurs toute une question qui interroge les historiens, puisque bon, toute la question de la continuité entre la phase de Lénine et la phase de Staline est évidemment très importante.
En tout cas, dans les années 30, le KGB s'appelait encore le NKVD, et c'était le début de la Grande Terreur.
Товарищи, враги, хотели
Camarades, les ennemis voulaient diviser notre jeune République soviétique en morceaux. Mais nous avons le NKVD, que dirige un fidèle stalinien, Nikolaï Ivanovitch Yezhov. Vive notre cher ami, créateur de l'humanité, le camarade Staline.
Alors c'était une archive soviétique de 1936, le début des grandes purges staliniennes. En fait, elles avaient commencé. Il y a eu plusieurs types de victimes du stalinisme. Il y a eu d'abord les paysans, ce qu'on appelle les koulaks, Stéphane Courtois.
Oui, il y a eu différents types de victimes et différents types de terreurs. Il y a un type de terreur qui a touché directement la population ou certaines parties de la population, en particulier ces paysans qui refusaient tout simplement de voir collectiviser leurs terres, c'est-à-dire d'être mis dans une espèce de semi-servage, alors qu'en fait ils avaient fait la révolution précisément pour être propriétaires de leurs terres, bien pouvoir en disposer à leur guise. Et donc là, il y a eu une première offensive dès 1929-1930 extrêmement violente contre les paysans, avec à la clé des fusillades massives, des déportations massives, et surtout entre septembre 32 et mai 33, une famine organisée par Staline, par le pouvoir, avec la réquisition armée, avec la force des armes de toute la nourriture, et donc la mort de faim en 9 mois de près de 6 millions de paysans ukrainiens, hommes, femmes, enfants. Et ça, évidemment, c'était un moyen de soumettre définitivement des populations très importantes. Ensuite, il y a eu la liquidation des ennemis du régime, les ennemis considérés comme avérés, c'est-à-dire les anciens nobles, les anciens officiers, les religieux, etc. Et puis alors, il y a eu les purges qui, elles, ont concerné les gens qui étaient en fait les fonctionnaires du régime. C'est ça qui est...
Et haut fonctionnaire aussi.
Oh ben, haut fonctionnaire ou petit fonctionnaire.
Adversaire ou concurrent de Staline.
La purge pouvait toucher jusqu'au plus haut sommet de l'État et du parti. Hein, il faut quand même rappeler que, alors que Molotov était Premier ministre, sa femme était envoyée au goulag. Hein, donc, et dans les réunions de bureau politique, Beria, le chef de la police, passait derrière lui et lui susurrait dans l'oreille « Elle est toujours vivante ». Et l'autre, il avait les genoux qui s'entrechoquaient sous la table. Bon, c'est ce qu'il a rappelé dans ses mémoires. Donc c'est pour vous dire à quel point Staline avait imposé une espèce de terreur généralisée qui lui permettait à sa main, à sa pogne, comme on dit en France, tout ce pouvoir, le parti, la police politique et l'administration d'État.
Donc élimination aussi de tous ceux qu'on soupçonnait d'être proches de Trotsky, le grand rival de Staline. Il y a eu l'élimination de Kamenev aussi, de Zinoviev. Et puis alors élimination de l'armée avec 75 des 80 plus hauts de l'armée rouge, dont le chef de l'armée rouge, Tukhachevski, donc éliminé à la fin des années 30, si bien que l'URSS est très affaiblie quand commence la Deuxième Guerre mondiale, et surtout lorsqu'en juin 41, l'Allemagne l'envahit. Staline n'a alors plus que des mots à opposer à l'armée allemande. On l'écoute dans cette archive de 1941.
Camarades de l'armée rouge et de la marine, officiers et commissaires politiques, résistants et résistantes, le monde entier vous regarde. Une grande mission civilisatrice vous incombe. Soyez dignes de cette mission. Vous menez une guerre libératrice, juste. Puissiez-vous être inspiré par l'image amicale de nos grands ancêtres. Alexandre Nevsky, Dimitri Donskoy, Alexandre Suvorov, Mikhail Kutuzov. Inspirez-vous du drapeau invincible du grand Lénine pour la défaite totale des envahisseurs allemands. Mort aux occupants allemands. Vive notre glorieuse patrie, vive la cause de la liberté et de l'indépendance, derrière le drapeau de Lénine, en avant vers la victoire.
C'était la voix de Staline, on en a peu d'ailleurs d'archives de ce genre, à un moment considérable de l'histoire de la Russie. D'ailleurs, je dis volontairement la Russie, nous sommes en juin 41, elle vient d'être envahie par les Allemands, et on entend le chef du plus grand pays communiste du monde à l'époque, qui fait appel aux grands ancêtres de la Russie impériale, Kutuzov, Alexandre Nevsky, Suvorov, Kutuzov, le vainqueur de Napoléon et Staline. C'est extraordinaire ça dans la bouche de Staline.
Oui, ça peut paraître extraordinaire, mais ça n'est pas très surprenant, parce que, comme nous le disions tout à l'heure, Staline est un très grand politique, et en fait, c'est un communiste, son idéologie, son projet est communiste, mais il est prêt à utiliser toutes les cartes. Hein, et donc, la Russie entre en guerre, il a compris que la carte patriotique, nationaliste, est indispensable pour que le peuple russe, qui, Dieu sait, n'est pas forcément enthousiaste du régime avec tout ce qu'il vient déjà de subir dans ces années 30, se dresse contre l'envahisseur. Et on sait que s'il y a eu un pareil effondrement de l'armée rouge, c'est... comme vous l'avez rappelé, parce que Staline avait fusillé une grande partie de ses officiers et qu'on ne peut pas faire fonctionner une grande armée moderne et mécanisée sans des officiers professionnels. Mais c'est aussi parce que beaucoup de populations accueillaient au départ les Allemands les bras ouverts, en particulier en Ukraine. Il faut dire que ça s'est renversé très vite, puisque les Allemands ont traité les populations occupées de manière, j'allais dire, bien pire encore que ce qu'elles ont fait en France.
Oui, mais inversement, des Russes qui devaient être très anticommunistes, et je pense par exemple à Solzhenitsyn qui est sorti du goulag pour se battre dans l'uniforme de l'armée rouge, parce que c'était pas le communisme qui était attaqué, c'était la Russie. Donc là, il prend une dimension quand même un peu différente, Stéphane Courtois, y compris d'ailleurs pour le reste du monde. On lui rend hommage même aux États-Unis à ce moment-là, en raison de la guerre que mène l'URSS.
Bien sûr, puisque à partir de ce moment-là, la nature du régime, c'est-à-dire la nature totalitaire du régime soviétique, qui en principe devrait être répulsif, par exemple pour un président comme Roosevelt, qui est un démocrate incontestable, tout ça passe à l'arrière-plan. Il y a une urgence urgentissime qui est la destruction du nazisme, la destruction d'Hitler. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, Hitler vient de s'emparer de toute l'Europe, c'est-à-dire qu'il a une armée énorme, parfaitement organisée, performante, et qui dispose de toute la production européenne. Donc là, il y a un danger énorme, et on passe sur les divergences politiques pour cette action commune. Et c'est vrai que là, Staline va être remarquable parce que il va faire croire à Churchill qu'il est un quasi-démocrate. Il reçoit le métropolite pour montrer à quel point il est sensible à la religion, etc. Il fait croire à Churchill qu'il est un dictateur ordinaire, sans plus. Il fait croire à De Gaulle qu'il est un descendant du tsar et qu'il est un bon patriote russe. Donc voilà, il a su extraordinairement habilement, je dirais un peu vulgairement, rouler dans la farine des hommes politiques qui pourtant n'étaient pas les derniers venus.
Bon, et puis alors, il prend aussi une dimension considérable. Il y a la victoire de Stalingrad, la ville qui porte son nom en 42-43. Il y a ensuite donc la victoire, la prise de Berlin. Les Américains laissent beaucoup faire les Russes qui ont perdu, il faut le rappeler, quand même 20 millions de personnes dans cette guerre.
Hein.
Et puis, c'est aussi la conquête de toute l'Europe de l'Est. Donc, la dimension de Staline est énorme. Et puis aussi, il faut savoir, on n'en a pas encore parlé, Stéphane Courtois, une des caractéristiques, justement, du stalinisme, c'est cet extraordinaire culte de la personnalité, très, très efficace, qui va culminer en décembre 1949, à l'occasion du 70e anniversaire de Staline, célébré solennellement dans toutes les écoles de Russie.
Aujourd'hui est une grande journée. Nous fêtons le 70e anniversaire du cher camarade Staline. Si tu chantes le bonheur, si tu suis un chemin difficile, sache que tu n'es pas seul, mais deux.
Cantata a Staline, musica compositora Alexandrova.
Force, santé, bonheur. De la terre jusqu'au soleil, au-dessus de la gloire de notre peuple, ce mot s'élève comme l'arc-en-ciel aux sept bandes. Il monte comme un chant au-dessus des jardins, là où les sommets vibrent dans la lumière, laissant les aigles sans ailes. Ce mot, ce grand mot, c'est Staline, âme, chair et sang du peuple.
Inter du Milan d'histoire aujourd'hui, la mort de Staline en direct du mémorial de Caen avec Stéphane Courtois.
Stéphane Courtois, c'est vraiment là, cette cantate qu'on vient d'entendre, c'est une dévotion quasi religieuse, âme, chair et sang du peuple pour un chef communiste. C'est quand même fabuleux cette propagande de la fin des années 40, début des années 50.
Ah, c'est une véritable adoration. Staline est un véritable dieu vivant à l'époque. Ça a commencé 20 ans auparavant, pour son 50e anniversaire en 1929. Je ne crois pas qu'il était mégalomane au sens où on l'entend traditionnellement. Ça n'est pas un vaniteux. Simplement, il a compris que le culte de la personnalité, c'est encore une carte politique. Le peuple doit croire à un homme fort, au tsar, etc. Donc, il a joué cette carte d'abord modérément, et puis ensuite, évidemment, à partir de 1945 à fond, et avec raison, parce que il est au sommet de son pouvoir. Rappelons quand même qu'en 45, Staline fait de l'Union soviétique la deuxième superpuissance, quand on se souvient ce qu'elle était en 1920, c'est-à-dire presque rien. Et deuxièmement, il a construit autour de cette superpuissance un système communiste mondial tout à fait extraordinaire, avec toute l'Europe de l'Est à partir de 45, la Chine à partir de 49. Ce sont des milliards de gens qui sont sous le pouvoir communiste. Et à sa mort, il est vraiment au fait de sa gloire et de son pouvoir.
Et dans le culte de cet homme, hein, omnipotent, omniprésent, surnommé le petit père des peuples, le coryphée de la science, le guide génial du prolétariat universel et même le mécanicien de la locomotive de l'histoire.
Oui, hein, absolument.
Alors, on peut comprendre, je pense, quand même qu'en Russie, on devait y croire, puisqu'il n'y avait pas d'autre son de cloche. Ce qui est étonnant, quand même, c'est qu'en Europe aussi, on ait pu entretenir le culte de Staline. J'ai sous les yeux, pour le 70e anniversaire de Staline, un poème d'Éluard qui écrit « Et Staline pour nous est présent pour demain, et Staline dissipe aujourd'hui le malheur. La confiance est le fruit de son cerveau d'amour, la grappe raisonnable, tant elle est parfaite. » Et Éluard ajoute « C'est la vie et les hommes, car la vie et les hommes ont élu Staline. Pour figurer sur Terre, leurs espoirs sans bornes. » Comment se fait-il que des intellectuels, en France, dans un pays qui n'a rien à craindre du communisme, puissent partager cette dévotion?
Ben c'est parce que ce communisme a été, on l'oublie aujourd'hui parce qu'il est, il est à l'agonie sur le plan historique, mais ce communisme a été un formidable phénomène de croyance. Les gens croyaient véritablement, hein, vous avez, c'est le dernier mot, l'espoir. Bon, donc les gens croyaient véritablement que le communisme pourrait faire une espèce de paradis sur Terre, et ils étaient totalement engagés. D'ailleurs, ils risquaient leur vie pour ça souvent. Hein, donc, et là, je citerai peut-être une phrase de Marcel Proust, qui n'est pas un grand spécialiste du communisme, mais qui est un grand spécialiste de la psychologie humaine, et qui a dit cette phrase qui explique tout. Les faits FAITS, les faits ne pénètrent pas dans le monde de nos croyances. Et dans le cadre du communisme, c'est tout à fait ça. De grands intellectuels croyaient, et on pouvait leur mettre sous les yeux des choses très précises. Non, ils n'y croyaient.
Et ils fermaient les yeux sur une terreur qui avait repris après la guerre. Il y a eu, on n'a pas le temps de s'y attarder, il y a eu quand même les grandes purges dans les pays de l'Est, le procès Stanski, il y a eu le procès des blouses blanches qui se fait quelques jours avant la mort de Staline. Il faut rappeler ce qu'était ce complot. On soupçonnait des médecins de vouloir tuer les dirigeants du Parti communiste, et on en a arrêté en janvier 1953. Et on remarque aussi, dans le choix des personnalités arrêtées, on remarque que c'était des procès très antisémites. Alors ce procès des blouses blanches intervient quelques jours, d'ailleurs il n'aura jamais lieu, puisqu'il est interrompu par la mort de Staline le 5 mars 1953, il y a 50 ans, et ça provoque des réactions, bien sûr, à la mesure du personnage, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Oui, le 6 mars 1953, la une de l'Humanité, encadrée de noir, titre en énorme caractère « Staline est mort » sur une photo grandeur nature du défunt. En l'UMA, pendant plusieurs jours, publie des témoignages de tristesse, des photos où l'on voit des drapeaux soviétiques et des voiles de crêpe sur des mairies communistes, des ouvriers dans leur usine observant une minute de silence. À Saint-Ouen, par exemple, les camarades du chantier Ruot, qui viennent d'apprendre la nouvelle, ont laissé là les gamelles, le repas, écrit l'UMA. Un camarade parle. Staline était le guide des travailleurs du monde entier. Les visages sont crispés, des poings se serrent. Ce soir, ils porteront un message à l'ambassade soviétique. Louis Aragon, un de ces intellectuels communistes, qui voyait dans Staline le plus humain des hommes, câble à Moscou, je cite, « la stupeur douloureuse de tous les intellectuels français ». Mais Staline n'est pas vraiment mort. « Regardez ce visage », écrit Pierre Courtat dans l'UMA. Tout y signifie bonté, simplicité, force. Nous sentons qu'il n'y a pas d'homme plus vivant au monde. D'ailleurs, la revue France Nouvelle, communiste, l'affirme « Le cœur de Staline a cessé de battre, mais le stalinisme est immortel ». En plus réaliste, Raymond Aron, intellectuel non communiste, dans le Figaro constate avec soulagement « Celui qui fut élevé au-dessus de la condition humaine vient d'être frappé comme un simple mortel ». En toujours dans le Figaro, François Mauriac a une pensée pour tous ceux que Staline a fait mourir. Tous ces forçats, dit-il, tous ces pendus pour l'amour de l'électrisation. À gauche, Georges Altman, dans le quotidien non communiste Franc-Tireur, évoque aussi tous ceux que le dictateur Staline, pharaon inhumain, a fait disparaître. Ses compagnons du parti, sans parler, dit-il, des peuples entiers déportés, des bagnes et des grandes purges. L'éditorial du Monde est plus mitigé, en revanche. La poursuite du bonheur stalinien a peuplé les camps de concentration et les charniers et transformé des millions d'hommes en robots civils ou militaires, mais, ajoute Le Monde, elle a aussi permis à l'homme de remporter sur la nature quelques-unes de ses plus magnifiques victoires, lui fournissant d'extraordinaires motifs d'exaltation et d'orgueil. Alors pour ce qui est de l'avenir, Le Monde est inquiet pour la paix, rappelant la formule qui prévalait jusqu'à ce jour « Tant que Staline sera là, il n'y aura pas de guerre ». Dans Paris Presse, le Hongrois François Fechteux ne cache pas son pessimisme sur les capacités d'ouverture de l'Union soviétique. Staline peut mourir, dit-il, le stalinisme lui survivra.
Un commentaire sur ces textes, Stéphane Courtois?
Oui, bah, ils sont parfaitement représentatifs du climat de l'époque. Il faut quand même rappeler que, au lendemain de la mort de Staline, le président de l'Assemblée nationale, Édouard Herriot, a demandé à ses chers collègues de faire une minute de silence à la gloire de Staline, à la mémoire de Staline, après avoir fait un petit discours très élogieux. Il n'y a que deux députés qui ont refusé de se lever. Donc, c'est vous dire à quel point, et donc, évidemment, dans cette Assemblée nationale, il y avait une minorité de communistes, donc c'est dire à quel point la figure de Staline, c'est vrai, après aussi à cause de la guerre, à cause de Stalingrad, à cause de l'écrasement de l'Allemagne hitlérienne a été importante.
Alors la dévotion, elle était surtout en Russie, sauf bien sûr dans les camps, dans le goulag. Mais là, on dit qu'il y a eu 300 morts au moment des obsèques de Staline. C'est assez extraordinaire.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu,
des gens
il y a
qui
eu
sont un gigantesque. Il y a eu une exposition du corps.
Le corps a été exposé et une exposition au public. Et donc il y a eu un gigantesque mouvement de foule qui est devenu absolument incontrôlable. Et donc des centaines de personnes ont été tout simplement écrasées par ces mouvements de foule avec des millions de gens dans ces énormes avenues de Moscou, hein, qui sont des avenues larges de 200 ou 300 mètres. Et alors, bon, c'était absolument devenu incontrôlable. Quand on parle avec des Russes de cette époque, les sentiments sont en fait mitigés parce que les uns disent, évidemment, on venait pleurer Staline, et d'autres disent, on venait vérifier qu'il était bien mort. Bon, évidemment, on ne va pas sonder les reins et les cœurs, mais enfin, il est probable qu'il y avait un sentiment assez mitigé chez un certain nombre de gens.
Merci Stéphane Courpois. On comprend en tout cas en vous entendant la stupéfaction des communistes du monde entier lorsque trois ans plus tard, en 1956, la déstalinisation, la révélation des crimes de Staline va faire tomber Staline de son piédestal. Mais de cela nous parlerons demain dans la deuxième partie de cette série de 2000 ans d'histoire. Je rappelle Stéphane Courpois quelques-uns des titres que vous avez publiés. Du passé, faisons table rase, une histoire et mémoire du communisme en Europe, sorti chez Robert Laffont. Et puis une si longue nuit, l'apogée des régimes totalitaires en Europe, qui paraîtra aux éditions du Rocher en mai prochain. Je précise par ailleurs que vous avez collaboré à l'ouvrage collectif, le livre noir du communisme, Crime, terreur, répression, sorti en poche chez Pocket. À lire également le stalinisme au quotidien, la Russie soviétique dans les années 30, de Sheila Fitzpatrick, publié par Flammarion, et puis Piégé par Staline, de Nicolas Jallot, sorti chez Belfond. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Gilles Manet, Yvan Chabi, Franck Malabry et Louis-Michel Schwartz, documentation Virginie Bleu-Clenet et Claire Tesset, revue de texte Stéphanie Denkan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Nous étions donc en direct du mémorial de Caen. Merci à son directeur, M. Belin, de nous avoir accueillis. Et puis merci aussi au public d'être venu assister à notre émission. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la deuxième partie de cette série spéciale sur Staline avec Daniel Vernet. Nous parlerons donc de la déstalinisation. Il est 14h30, très précis, sur France Inter, en direct donc de Caen. À vous Paris, à vous Chris. Bonjour Chris.
Bonjour, j'espère que vous allez vous promener un petit peu après, à Caen.
On va visiter.